et des pays qui meurent de faim. On a le nez vers la lumière, ébloui par tant de bonheur. On en oublierait la manière dont les crémiers ont fait leur beurre. Le monde est gai comme un pinson, une clé d'or à la portée. Il s'écrit partout des chansons, c'est le monde des variétés. Danse et chante partout la joie, c'est un spectacle permanent. Il importera toutefois que la caméra ait du talent. Nos princes héritiers de Midas ont modernisé la pratique qui consiste, c'est dégueulasse, à transformer les larmes en fric. Et baignant dans cet océan d'une incomparable richesse, nous invite à en faire autant, c'est bien là que le bas nous blesse. Si vous croyez qu'on est content avec ce que vous proposez, c'est que vous ne sortez pas souvent de vos milieux, de vos quartiers. Si vous croyez qu'on est heureux avec ce que vous promettez, vous vous mettez le doigt dans les yeux, un peu plus loin que vous pensez.
Merci Monique au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste et Urbi comme Urbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeur, une seule adresse, librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement. Très bonne librairie, ouverte du mardi au samedi à partir de 14h, sauf le samedi, c'est plutôt. Bon, on est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Mona Huerta.
Très bien.
Voilà.
Qu'à cela ne tienne.
C'est une carrière. Abdoulkader Al-Janabi. Bonjour monsieur, très enchanté de vous connaître, de vous rencontrer. Denis Moscovici.
Bonjour.
Voilà, enfin, hein, qui est poli, c'est le seul qui a dit bonjour jusqu'ici. Hein. Et Charlie Lousse.
Bah donc, moi aussi, bonjour, oh bah. Parce que nous voilà bien mis à notre place. Nous sommes
voilà, bah tout ça, c'est appartient à Intoto, dont on attend le numéro 6, qui ne va pas tarder à sortir. On devait tous se voir à la Halle Saint-Pierre le 28, mais c'est repoussé.
Oui.
Pas trop longtemps, j'espère, parce qu'on est en train de piaffer. Et j'ai pas présenté Stéphane Poplimon, c'est ça ?
C'est ça.
Alors, on raconte l'histoire, on ne se connaissait pas.
On se rencontre.
On se rend compte. Je parle de Intoto numéro 8,
Numéro 8, tu es très beau pour la petite.
Bientôt.
Numéro 6, et je dis, le nom d'Aline Gagnère, auquel Intoto consacre un important dossier, et tu me dis.
Je connais bien Aline Gagnère, enfin du moins son œuvre, son travail, et puis pour avoir aussi découvert des écrits d'elle dans un vide-grenier. Dans un
c'est ça, tu as trouvé
des lettres, oui.
Et ça parle de quoi, ces lettres?
C'est des scènes de la vie quotidienne, de ses volets, d'une maison, de choses simples et authentiques.
Et deuxième point qui est rare aussi, je ne sais pas comment dans la conversation j'ai glissé le nom d'André Frédéric.
Ah oui,
il n'y a plus grand chose. Charles.
Non.
André Frédéric, pharmacien, humour noir, très noir, qui a fini mal puisqu'il s'est suicidé, non?
C'est ça.
Voilà. Oui. Et tu m'as dit, je connais.
Sur, oui. Voilà. Tout à fait.
Et en plus, mais là, c'est. Charles connaît d'ailleurs. Je donne le programme qui devait avoir lieu le 28 en parlant des écrits de l'or, c'est-à-dire Colette Peignot, mm-hmm. Dont Virginie Di Ricci devait nous lire quelques extraits. Et puis c'est bon, les gens connaissent. Je me suis aperçu que les gens connaissaient de moins en moins.
Ah oui,
et tu m'as dit que tu connaissais.
Ah oui, tout à fait. Bah déjà à travers les rééditions qu'il y avait eu chez Pauvert après en 18. Et puis surtout, j'ai eu la chance de mettre la main sur le petit fascicule qu'avait publié. Bataille, et avec les risques justement à la mort de l'or.
C'est la première édition.
Petit hors commerce, ouais, 300 exemplaires, je crois.
Bravo.
Voilà, donc un petit trésor.
Tu es un garçon fréquentable.
Voilà,
sur Radio Libertaire. Donc tu travailles à la Halle Saint-Pierre.
C'est ça, le libraire de la Halle Saint-Pierre, bon, avec Elisabeth et Anthony aussi, donc l'équipe de la librairie.
Pour l'instant, à la Halle Saint-Pierre passe Gilbert Père, c'est ça?
C'est ça, Gilbert Père, l'électro-mécanomaniaque.
Alors, je vais te confier une mission.
Oui.
Quand tu vas le croiser ou tu vas le voir?
Bah oui,
ouais, d'accord.
Évidemment.
Tu lui diras que j'ai assisté, il y a à peu près 20 ans, à un spectacle à l'usine liquide d'Aubervilliers. Ça s'intitulait « On tue le cochon ». Il n'y avait pas de cochon dans l'histoire. Il y avait un type qui restait immobile sur un siège en hauteur, mais sans dire une parole, simplement il a hurlé à la fin, c'était Achille Lavado. Il s'est mis à hurler. Et pour le reste, c'est peut-être un des plus beaux spectacles que j'ai vus. Alors c'est à toi de témoigner par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. C'est-à-dire, il y avait des armoires, il y avait des fils, il y avait des objets qui se percutaient, et ça durait pendant une heure.
C'est ça,
parole, et c'était absolument magnétique, ce qu'a de le dire.
Son univers, effectivement, magique et étonnant. Et du coup, Aubervilliers, je pense que c'était aussi, il avait ses ateliers là-bas, Gilbert Père, donc ce qu'on a fait aujourd'hui, puisqu'il n'a plus ses ateliers, on a, avec lui, il a souhaité recomposer un peu l'univers de ses ateliers à la Halle Saint-Pierre. Donc,
et c'est de quand à quand?
Ça sera jusqu'en, ben là, ça a commencé mercredi dernier, ce sera jusqu'au mois de juillet. Et je précise aussi, en parallèle, il y a une seconde exposition autour de Malcolm de Chazal, à découvrir aussi, rassembler l'œuvre picturale et aussi dans la librairie, on présente à travers ses écrits et on aura une grande rencontre le 5 octobre à travers Malcolm, la modernité aussi, parler de son œuvre et comment aujourd'hui elle s'inscrit dans une modernité justement à travers à la fois l'édition, puis on aura les éditions Alia, Philippe Ray, on aura aussi l'après-midi une rencontre avec le groupe surréaliste à travers François Spie, donc parlerons.
Le 7 octobre, nous recevrons la revue Empreinte,
oui.
Qui, avec Intoto, tiendra sûrement un stand au salon de la revue,
oui.
Le 12 et 13, c'est là, au Blanc Manteau, c'est là qu'avait dans le temps le salon du livre libertaire. Je ne vous ai pas présenté Monique en cabine, elle attendait parce que je suis touché effectivement, je tiens à dédier cette émission à l'abbé Pierre, et je pense qu'elle va, bon Charles aussi d'ailleurs, c'est le français le plus populaire de France, c'est là, et c'était, je ne sais pas si c'est l'Humanité ou je ne sais pas quel journal, mais il y avait une caricature, on voyait l'abbé Pierre avec la soutane bien gonflée au bon endroit, et il disait « Ma foi est inébranlable ». Donc, ça c'est... on va parler d'Intoto numéro 6 qui va sortir, bientôt.
Oui, bien sûr.
Vous tremblez, madame la maquettiste, vous tremblez?
Bien sûr.
Plus que maquettiste.
Normalement, ça ne devrait tarder.
Une partie de cette revue est consacrée à... Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Beaubourg, Télérama, etc. Il y a du surréalisme dans l'air partout.
Un peu partout.
Voilà. Est-ce qu'on est opportuniste en faisant ce numéro?
En reprenant la question de Breton sur le fonctionnement de la pensée, alors où s'exerce et se réalise aujourd'hui le fonctionnement réel de la pensée dont parlait Breton en 1924. Donc l'enquête a été lancée, il y a eu des réponses, il y en a qui sont très pertinentes, il y en a qui sont très lourdingues. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, il y a deux choses qui m'intéressent. Après, je vous laisse la parole. C'est que, bon, est-ce que c'est à propos? Est-ce qu'on devait le faire? Hein? J'ai reçu un coup de téléphone, un mail sarcastique me disant, tu comprends, le surréalisme était au départ quelque chose de révolutionnaire. On criait « famille, je vous hais », etc., etc. On est tombé dans un monde clos, un monde familial, où tout le monde sait le nom de la femme, le nom de l'épouse, le nom de la fille, et y compris le nom de la maison de campagne, Saint-Cyr-la-Popie.
Oui.
Et oui, je peux pas dire le contraire non plus, et c'est juste. Hein? Donc, est-ce que le surréalisme a perdu sa force de turgescent, j'ai envie de dire? Et quand on lit cette... Ça, c'est la question que je vais vous poser, vous allez vous y mettre. Et quand je lis cette enquête, il y a deux choses qui me... Une chose qui me rassure énormément, c'est que les gens sont quand même revenus à une idée politique du surréalisme. On est à une époque où c'est le mystique qui prédomine, et où la spiritualité, entre guillemets, et là, il y a le mot politique qui revient. Et la deuxième l'inquiétude que j'ai, et là vous allez vous y coller, il y en a plusieurs qui disent, oh bon, aujourd'hui on ne peut pas répondre parce que la vie est tellement difficile, parce qu'il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Mais lorsque Breton a écrit ça en 1924, est-ce que le monde était plus simple? En 1924, il y avait 14-18, il y avait les épidémies, il y avait la colonisation, il y avait le catholicisme qui était là. Il y avait le papa Freud qui était dans l'air, Marx, que le socialiste commençait à interpréter. Est-ce que le monde était plus simple? Est-ce que le génie de Breton n'a pas été justement d'arriver à synthétiser tout ça? Vous vous y collez, Stéphane, Denis...
Kader commence.
Kader.
Pour l'honneur.
Kader, fais quelque chose pour une fois, je t'en prie.
Je ne sais pas si Breton a essayé de synthétiser deux idées de ici de là. D'abord, le manifeste était préface pour poème en prose. Ce n'était pas un manifeste. Je ne sais pas comment elle a changé l'idée d'une préface et un manifeste. Je pense que Breton était intelligent assez de ne pas récupérer ce qu'il y a dans l'air, mais d'attraper quelque chose. Voilà. Et de le mettre, de remettre dans une nouvelle de
donnée.
Qu'est-ce qu'il reste de lui? Ça, je ne sais pas. Les questions qu'on a posées dans la revue, c'est pour savoir, ou pour que les gens qui participent doivent savoir que le surréalisme, elle n'est plus là. Surréalisme dans le sens de Breton, des choses comme ça, c'est plus là. Elle est simple. Il y a deux bandes, et chaque bande, selon sa propre politique, sa militantisme politique, s'il est anarchiste, il fait une publication surréaliste anarchiste. S'il est trotskiste, il fait une publication surréaliste trotskiste. Alors, ce n'est pas une expression du surréalisme lui-même. C'est une expression de groupe. Et chaque groupe, ils sont liés par quelque chose de très malsain. Pas réellement la créativité, malgré ils font beaucoup de collages, ils font beaucoup de peintures, mais c'est déjà vu.
C'est de la répétition.
Oui, répétition, c'est déjà vu. On l'a mille fois déjà, voilà. Voilà.
Denis, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Je dirais que pour continuer dans le fil de Kader, on a souhaité aussi. Alors justement, nous on n'est pas un groupe, on n'est pas surréaliste nécessairement, mais on a voulu interroger et ne pas censurer les réponses que nous recevions. Je crois qu'on a tout publié.
Oui.
Il n'y en a pas une qu'on n'a pas publiée. On n'a pas hiérarchisé. On a souhaité livrer le résultat brut de ce que nous avons récupéré, ce qui fait que. Ça te permet de dire qu'il y a certaines réponses qui sont lourdingues, d'autres qui le sont moins. En tout cas, on a voulu faire un état des lieux sans filtre et sans consigne. Voilà.
j'aimerais rajouter une note que j'ai écrite à propos du surréalisme. Comme mouvement historique, le surréalisme ne pouvait échapper à son cauchemar, le questionnement de sa propre principe. Si le surréalisme, au cours de son développement, avait accepté la critique interne qui mettait en doute l'écriture automatique, par exemple, il serait tombé comme un château de cartes. Je ne sais pas si André Breton était conscient de cela. De toute façon, il a toujours refusé les relatives mises en question de poètes surréalistes d'autres pays, comme Georgina, comme Nicolas Calas, tout ça. Lorsqu'après la mort de Breton, c'est ça le résultat de tout ça. Lorsqu'après la mort de Breton, Jean Schuster a publié le quatrième chant pour en finir avec une part historique du surréalisme. Le mouvement s'est effondré, criant devant le groupuscule. Selon où, c'est-à-dire devant le groupuscule, leur moto, comme ça s'appelle, la pensée mémoriale de la pensée, elle est devenue pense, mais toujours contre quelqu'un. D'accord.
Voilà. Charles, tu es là pour ça aussi, pour parler.
Hein. Eh ben, et comment? Alors bon, d'abord, je pense que quand on a lancé cette enquête, c'est précisément pour pas aussi rester trop dans l'entre-soi, tu sais, de cette revue où tout le monde se connaît, où on accueille évidemment un certain nombre de personnes, mais où, en fin de compte, ça se révèle un lieu relativement fermé et qu'il s'agit d'ouvrir, donner un peu d'oxygène. L'enquête, la modalité enquête, précisément, nous permet de, comme ça, voir arriver toutes sortes de points de vue. Et comme l'a dit Denis, effectivement, on ne sélectionne pas, on les a pris, on les a simplement classés par ordre alphabétique, ce qui est une façon de ne rien classer. Et donc les gens, d'abord, première surprise, la sollicitation a été prise très au sérieux par ceux qui ont répondu, et ils ont pondu dans les limites du nombre de mots qu'on leur demandait, 300 mots à peu près, ils ont tous répondu et ils ont fait quelque chose. Alors, d'une part, donc, de ce point de vue-là, c'est une réussite et qui appelle à un prolongement. C'est-à-dire, j'espère qu'on va relancer d'autres enquêtes de façon à voir un petit peu. Ça nous permet aussi d'avoir un retour sur lecteur, hein, qui nous lit et qui est prêt à contribuer à ce qu'on fait. Bon, donc, tout ça est très intéressant. Je dirais maintenant sur le fond, citer une phrase très connue de Breton et ainsi, avec la distance, un siècle plus tard, essayer de voir ce que les gens en pensent, ce qu'ils sont capables de dire. Moi, j'ai été assez étonné que, d'une part, qu'effectivement, ils se sont livrés de manière assez... ils ont joué le jeu, mais personne n'a relevé le côté paradoxal de la phrase de Breton.
Ça veut dire quoi,
hein? Eh bien, je veux dire que le surréalisme se revendique d'une pensée, d'un fonctionnement réel. Mmh. Entre réel et surréel, il y a quelque chose qui marche pas tout à fait ensemble. Et je veux dire, on pense pas à questionner les mots choisis par André Breton, parce qu'André Breton s'exprime. Et donc, d'une part, le fonctionnement réel de la pensée, qu'est-ce que c'est que la réalité? De quelle réalité part-il? Lui qui revendique une surréalité.
Peut-être qu'il aurait fallu un espace beaucoup plus grand, parce que on réclamait là un nombre de mots donnés, et là, oui, on était parti, oui, pour des pages et des pages.
Ouais, peut-être, mais d'accord, mais que peut-être, mais on a eu combien?
34
réponses sur 34, une allusion au passage, quoi. D'accord. C'était qui aurait. Et autre point, si je peux juste terminer là-dessus aussi, est-ce que la pensée fonctionne? Le fonctionnement de la pensée, est-ce que ça fonctionne, la pensée? Un moteur, ça fonctionne?
Là, je te répondrai, ouais, par la personne perverse qui a été jusqu'à consulter ChatGPT. Je ne sais pas qui a, oui, eu cette idée-là.
Ouais.
Je ne sais pas si vous avez lu la réponse.
Là, ça fonctionne.
je vais la lire. Je vais simplement dire trois réponses brèves, ouais. dont ChatGPT.
Ouais, ouais.
Voilà ce qu'on, où on en est. Stéphane, tu veux dire quelque chose non, sur Breton, il t'emmerde
Non, Breton, bah, moi, c'est une rencontre très jeune, qui, quelqu'un qui me suit et que je suis depuis très longtemps. Et c'est vrai que questionner le surréalisme, je le fais depuis pas mal d'années. Et moi, je suis agréablement surpris de voir aujourd'hui tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, tout ce qui questionne. Pour moi, c'est déjà, ça veut dire que c'est toujours présent. J'ai la sensation, justement, aujourd'hui, que le surréalisme a posé des jalons, surtout sur un paysage qu'il a nettoyé, on va dire, de contexte historique, de polémie. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi. Moi, j'aimerais aussi, j'en ai parlé à différentes personnes, savoir qu'est-ce qui s'est passé en France aussi dans les années 70, 80, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de revues, beaucoup d'échanges, beaucoup de groupes. C'est, pour l'instant, on n'a pas encore de...
Alors là, c'est le gros truc, parce qu'il y a plus... Regardez encore, je disais Télérama, j'ai ramassé Télérama sur le surréalisme, effectivement, on passe par la bonne officialité, tous les noms, on les connaît, et brusquement, il y a un trou, il n'y a plus rien. Pour plusieurs raisons. Pour une raison, pour moi, c'est moi qui lis. Parce qu'il y a eu, un problème. 68 est arrivé. Et 68 a tout remis en cause. Et maintenant, après 68, et Kader le sait, moi je sais, est-ce qu'il existe des mouvements? Oui, par exemple, mon ami Gladiator, qui était aussi c'est bien, qui était mon grand ami, a très vite compris qu'il y avait un monde sclérosé dans le surréalisme. C'était quelqu'un qui n'est pas présentable, quelqu'un qui, etc., qui était sûrement une des grandes fulgurances du surréalisme, mais qu'on passe sous silence. Tout à l'heure, je lirai un petit poème de lui, comme ça. Mais c'est très bien, bien sûr. Mais l'histoire n'est pas faite, l'histoire doit se faire. Et moi, pourquoi je participe à Toto, c'est pour faire cette histoire. Voilà. Non, monsieur Dénon. Je vous en prie, monsieur Dénon.
Non, juste un mot, ça pour dire d'abord que dans ces réponses, il y a aussi des réponses qui viennent de l'étranger, des réponses internationales, il y en a au moins 6, je crois.
Non, plus que ça. Un tiers des réponses viennent de l'étranger, Europe, Amérique, Asie, France, bien entendu, l'Europe.
Y compris de personnalités qui vivent dans des pays, enfin, qui sont exilés dans leur propre pays pour des raisons liées à la situation interne, au conflit. Donc il y a quand même là un peu une dimension politique peut-être qu'il faut mentionner. Et puis alors juste un petit détail, la question, nous ne faisons pas référence au fonctionnement réel de la pensée, mais à son exercice, je ne sais pas. On a changé ce terme. Ça nous a d'ailleurs été reproché par une certaine orthodoxie, d'accord. Comme quoi ça existe toujours.
Ben oui, mais c'est bien ce qui est, c'est bien c'est le grand problème du surréalisme. Mais là, par exemple, je connaissais pas Julian Thomas. On dit que c'était un Roumain, peut-être.
C'est
un
ami Roumain d'origine. C'est un Roumain qui travaille à Chypre.
On peut le trouver là où il a toujours été, où il sera tant que nous resterons ce que nous sommes. Dans cette disposition d'esprit qui nous incite à faire rire nos semblables. Seulement voilà, ne pouvant se manifester en dehors de la vie collective, l'humour devient vite l'affaire de gens sérieux, grands amateurs de garde-fous. Et quoi de plus glaçant qu'une époque où l'humour grouille, éperonné par ses professionnels, orchestrés, encadrés, convenus ou gavés de drôleries, nous rions machinalement, bêtement, nous rions de nous-mêmes, tandis que l'humour, le vrai, l'intempestif, plus noir que la nuit, attend qu'on finisse de rire pour éclairer notre jour. C'est magnifique, non? Et quelque part, il répond, par rapport aux reproches que tu peux faire, il dit, rions de tout ça. Mais heureusement que je crois que c'est Kader qui a rédigé ça, là. Heureusement qu'en introduction, en avant-propos, je vais quand même lire quelques lignes. Hein. Bien avant la mort d'André Breton, le surréalisme avait cessé d'être un mouvement, laissant subsister ce qui semblait déjà une idée dépassée, se maintenant en vie parce que le moment de sa réalisation fut manqué. Le surréalisme, en effet, n'est pas parvenu à se dissoudre. Il eut fallu pour cela entreprendre une critique radicale du mouvement. Il s'est tout bonnement abîmé dans divers groupuscules affirmant fidélité aux racines et généralement peu soucieux d'analyse historique. Là, je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Et puis, juste après, comme le remarquait Breton sur le tard, nous entrons dans une zone neutre et la révolte surréaliste devra s'exprimer en des formes qui ne soient ni la négation, ni l'affirmation. Nous sommes au-delà de la réprobation ou de la réprobation ou de l'approbation. Voilà, je crois que c'est ça, au moins c'est clair. Voilà. Monique, ne disparaissez pas, je vous en prie. Un peu de musique et puis on va écouter, on va parler de Java. Ça vous va ?
Bien sûr.
D'accord, allez-y.
Something in a way she moves attracts me like no other lover. Something in the way that she woos me. Don't want to live her now.
Merci Monique au 01 43 71 89 40. Ben avant de donner la parole à Charlie Louze nous racontant ses débauches à Java, c'est ça, Nana?
Voilà. Bon, là, je vais vous faire plaisir à tous, je le fais à chaque fois que les gens sont là. Gladiator a une poésie la plus drôle, la plus désespérée qui soit. Nous sommes tristes, nous sommes beaux. Percer des cuisses, hante et crisse, qui monte à l'assaut, percer des cuisses et les tonneaux. Nos caprices, chopés au lasso, percer des cuisses, démolissent l'Eldorado, percer des cuisses et les tonneaux. Les jocrisses, les Golduro, percer des cuisses, ils pâlissent, ils partent à volo, percer des cuisses et les tonneaux. Ils vomissent, attirent l'arigot, percer des cuisses, ils glissent au mitant des boyaux, percer des cuisses et les tonneaux. Tentatrice, la mort des taureaux, percer des cuisses, l'oasis farcie de chameaux, percer des cuisses et les tonneaux. Ma police, je la donne à Zorro, percer des cuisses, si périssent les désespérados, périssez les cuisses et les tonneaux. C'est magnifique, non?
Bien sûr.
Hein, c'est magnifique. Et c'est désespéré, ça paraît. Hein, on a l'impression d'être voir une ritournelle. Et puis c'est désespéré. Pour qu'est-ce que tu as été faire à Java, Chalilous? Tu as fui, trafiqué, qu'est-ce que tu as fui?
Qu'est-ce que j'ai été faire à Java? C'est difficile et à vrai dire, c'est peut-être pas intéressant. Enfin, je suis allé pour pour un certain nombre de, disons, de, d'obligations post-universitaires. Et je me suis retrouvé à Java Est. Java Est, c'est donc sur toute, qui est une région très particulière de la, l'île de Java, où ce qu'il faut, lorsqu'on se balade là, sur ces, ce territoire, eh bien, on constate la prolifération des spectacles qu'on a l'habitude d'appeler les spectacles vivants, et qui sont des spectacles évidemment populaires, puisque ce sont des spectacles villageois. Il y en a partout. Et il y a des expressions très diverses. On pourrait faire toute une typologie des spectacles qui montrent à quel point il y a vraiment un génie paysan à inventer des formes d'expression ludique et théâtrale. Et donc, depuis quelques années, j'ai eu l'occasion de, d'y aller et de voir ce genre de choses. Et alors, pourquoi ça surgit dans, dans la poésie de la, la revue de la poésie in toto ? Parce que je devais remettre un texte que j'étais très très en retard. C'est, je suis revenu d'Indonésie, c'était au mois d'août, le numéro était en train d'être bouclé. J'ai décidé de publier des notes que j'avais prises pendant un de ces spectacles. Voilà. Donc, ça s'est passé.
Donc, tu commences par une allusion au théâtre de la cruauté d'Artaud.
Voilà.
Et ce qui est très drôle, moi j'ai lu ton texte, hein. Tu écris n'importe quoi, mais moi je lis, d'accord. Et c'est très drôle parce que tu tiens vraiment par rapport à cette folie, que tu as rencontré une forme de folie là-bas,
oui,
que
oui.
Tu vas la raconter. Et c'est très drôle parce que ton texte finit par l'heure. Ouais. Tu tiens à mettre 17h45, ouais. Comme si tu voulais revenir. Dans le temps des occidentales, non ?
Oui, d'abord parce que, je cite dans cette introduction, qui est la seule chose rédigée et qui prétend un peu de recul et, sur les notes que j'allais livrer, je me suis rendu compte que tout se passait un petit peu comme dans le texte de Benjamin Perec. Pas Benjamin Perec, pardon, Georges Perec. Georges Perec qui... Oui, Georges Perec qui a écrit cette tentative d'épuisement d'un lieu parisien, et où il s'installe à la terrasse du café de la place Sainte-Opportune, et puis il décrit simplement ce qu'il voit, mais il commence à 10h50 ou 10h28, ou je ne sais pas, bon, bah, une heure pile, et il donne aussi la fin, l'heure du déroulement de ses observations est sans cesse donnée. Donc j'ai procédé un petit peu comme ça, en disant à quelle heure ça commence et à quelle heure ça finit. Et dans cette séquence-là, qu'est-ce qu'on voit ? Et ce que l'on voit, si on se situe dans l'ordre d'une description, eh bien on s'aperçoit qu'une description est très loin d'épuiser le spectacle qui se développe, qui se déploie autour de soi. Et ce sont simplement des petites bribes à l'intérieur de cette séquence de temps. On voit beaucoup plus qu'on est en mesure de décrire ou de saisir.
Mais c'est la faiblesse du langage.
Bien sûr, voilà, on est là tout à fait dépassé par précisément la réalité, le réel. Le réel dépasse largement, si ce n'est la pensée, en tout cas ce qu'on est possible d'en restituer par le langage, évidemment.
Mais ce sera, puisqu'on va revenir au surréalisme, c'est ce qui s'est passé avec les rêves. Dès qu'on a tenté de traduire les rêves, on rentre dans une civilité.
Ouais.
On use d'un langage qui est une chose civile. Donc il y a déjà au départ, il y a hiatus. Hein.
Ouais. Mais avec le rêve, peut-être aussi, dès lors qu'on parle des rêves ou qu'on raconte les rêves, c'est aussi pour essayer tout de suite de saisi par l'oubli du rêve. Hein. C'est un exercice de mémoire, le fait de raconter le rêve. Si on ne le raconte pas, et bien très vite, il disparaît, on oublie. C'est même totalement lié au fonctionnement du rêve.
Ce sont des danses païennes ?
Alors, ce sont danses païennes au sens où, oui, c'est pas, ça ne répond pas à la norme dominante qui est l'islam à cet endroit.
Parce que c'est l'islam qui domine.
À Java et l'Indonésie, c'est un pays, on dit le plus grand pays musulman du monde. Hein, il y a plus de 250 millions d'habitants et sans doute 180 millions de musulmans. Donc, mais c'est un islam indonésien qui est très très loin de l'islam, enfin très loin, qui est évidemment qui s'appuie à la fois sur le Coran. C'est un islam sunnite, mais qui correspond qui est pris dans un milieu social qui ne ressemble pas du tout à ce que nous pouvons, associer à l'islam tel qu'on le vit en France ou dans les pays du Maghreb. C'est indonésien. Et là, dans ces terres, à l'intérieur des terres javanaises, ce qui s'exprime au travers de ces spectacles, c'est une dimension religieuse pré-islamique que les Indonésiens appellent le Kejawen, et qui est une forme de religion, pour reprendre ton mot, païenne. Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire païen, sans faire de l'étymologie, en tout cas, c'est redonner un peu une espèce de priorité à ce que l'on appelle les esprits domestiques, les esprits forestiers, les esprits champêtres, les esprits du monde, quoi, qui sont là, et qui viennent véritablement, lors de ces spectacles, prendre possession des danseurs. Et les danseurs sont en transe, et la transe, c'est cette espèce de saisissement, cette revendication qui est portée par les esprits qui investissent le corps des danseurs et qui, là, totalement hallucinés, correspondent à ce que Artaud a vu et qu'il...
C'est ce que je te racontais au téléphone. On s'est téléphoné quand même, au téléphoné, cette fameuse histoire que Breton, qui a écrit « La beauté sera convulsive », Wilfred Olam l'amène en Haïti, là-bas, il assiste à une cérémonie vaudou, et Breton se met à suer, etc. Il a terriblement peur, il a peur des trans. Ouais. Et Wilfredo dit, il écrit « La beauté convulsive », il aurait mieux fait d'employer un autre mot. C'est proche du vaudou, c'est quoi? Parce que tu m'as dit qu'il...
Ce sont des... Ouais, par certains aspects, disons que... bon, je ne saurais pas rentrer dans une analyse très comparative de tout cela. Ce qui est sûr, c'est que la transe occupe une grande part. S'il n'y avait pas de transe, eh ben ces spectacles se videraient un petit peu de leur substance. Mais cette transe, elle est, disons, favorisée par des contributeurs à la transe, que sont d'une part les musiciens, alors les orchestres de gamelan, qui est un orchestre très, très particulier, les tambours, évidemment, le chant de certains chanteurs qui ont des voix très, très spéciales, des récipients où brûle de l'encens, vraiment très, très enivrant, qui sature l'atmosphère.
Et tu as eu peur ou pas?
La première fois que j'ai vu ça, ouais, j'ai eu une espèce de peur. D'autant plus que j'étais très, très proche de l'espace scénique. C'est pas une scène surélevée comme on peut l'imaginer dans un de nos théâtres. Mais c'est de plein pied, très souvent. Et c'est une espèce de périmètre qui est formé par la paroi que constitue le public. C'est le public qui donne les limites de la scène. Il est là, au bord de... Et donc, tout ce spectacle consiste précisément à laisser la bride sur le cou de ces danseurs qui sont appelés à briser le strict périmètre de leur où ils évoluent pour aller se ruer dans le public et dans la variante particulière que j'ai vue à Java cet été, une agressivité sur le public qui est très très forte, hein, on essaye de frapper les gens du public mais il n'y a jamais d'accident, le public s'en sort toujours très bien, mais parce que les danseurs sont très contrôlés, on les contrôle, il y a des modérateurs qui sont là pour essayer, pour faire en sorte que ça ne dégénère pas.
C'est proche de Borobudur, tout ça?
Tu vois où c'est pas très loin. Bah, oui, Borobudur, c'est... Alors là, on est à Java Est. Hein. Borobudur, c'est Java Centre. D'accord. C'est très proche de cette ville magnifique qui s'appelle Yogyakarta. Il y a Borobudur, il y a Prambanan, qui sont de très beaux sites.
Je vais te lire quelques lignes, ouais, complètement iconoclastiques, et ouais, j'expliquerai pourquoi c'est iconoclastique. Ouais. Hein. Un soir, à Jogjia, j'assistais à un spectacle de danse javanaise. L'orchestre qu'on appelle Gamelang comportait une quarantaine d'exécutants accroupis devant les instruments traditionnels de la musique javanaise, des lames d'acier vibrantes, des gongs de toutes sortes de tailles alignées côte à côte et qui résonnent chacun selon une note unique, tout un ensemble très complexe et très riche qui suppose, au dire des musicologues, la connaissance avant la lettre des découvertes les plus hardies de la musique contemporaine en Europe. Des jeunes filles exécutaient la danse du Kriss.
C'est un duel fin sur le thème de deux princesses qui se disputent le cœur du fils du roi, sur un rythme solennel qui évoque la germination et la croissance du blé, dans un film accéléré, un saut ou dans une course, dans un film au ralenti, elles attaquent, se dérobent, tournent l'une autour de l'autre et se trouvent soudain face à face, l'âme à l'âme, cherchant l'œil pour le crever. Ce combat de coqs, où les coqs sont des jeunes filles, est soudain interrompu par l'entrée des bouffons qui sont dodus comme des matrones et qui moquent les princesses avec des plaisanteries d'invertis. Le jeune Indonésien qui m'accompagnait, fils d'un illustre médecin, s'ennuyait visiblement. Je crois même qu'il s'endormit. Je lui demandais « Sans doute n'aimez-vous pas la danse ?»« Aussi, il me répondit. » Et son œil brilla soudain. Il m'expliqua qu'à 150 km seulement, à Georgia, dans le port de Samarang, il y a un nightclub ou un orchestre hot où l'on peut danser toute la nuit le boogie-boogie. Alors, pourquoi je te lis ça ? Voilà, je te le prêterai. Non, ne touche pas, s'il te plaît. S'il te plaît, non, jamais. Alors, pourquoi en 1950, il ne faut pas dire son nom quand on parle du surréalisme, Roger Vaillant. Je ne sais pas si vous citez Roger Vaillant, c'est le grand jeu. Il a été viré de tout ça. Il a fini stalinien, stalinien jusqu'au bout, jusqu'en 1956. Stalinien, à un point, il a même écrit dans ses écrits intimes que Staline devait avoir une grosse bite et au plus de ça, il devait savoir s'en servir. Alors, c'est comme ça. En plus de ça, il a écrit des conneries sur la poésie, vaut mieux le dire. Mais en 1950, il part. Il part à Borobudur, il part en Égypte, il part à la Réunion. Et là, comme on est en 50, c'est très intéressant parce que ce stalinien pur et simple juge tout ce monde, c'est de l'Asie, à l'aune d'une culture marxiste, mais marxiste vraiment, vraiment stalinienne.
Très stalinienne.
Voilà. Hein. Mais il a, le peu de passages qu'on a lu là, c'est superbe.
Alors, Jogja, c'est Yogyakarta dont il parle, qui est cette ville près de Borobudur, enfin, cette région, c'est Java Central, et c'est le seul sultanat actif d'Indonésie, puisque tous les sultanats sont moribonds après l'indépendance. Celui-ci est resté très actif parce que le sultan avait eu une des attitudes héroïques pendant l'occupation japonaise et avait résisté à toutes les occupations successives. Et donc, le nouvel État indonésien avait maintenu son autorité sur cette région. Et c'est là qu'il y a toutes sortes... Enfin, il y a une vie culturelle très, très forte. Hein. Très importante dans cette région, c'est... partout, c'est un peu absurde de dire une vie culturelle très forte. Mais là, avec des aspects qui sont très liés à ce stock ou ce capital de spectacle très ancien et qui sont toujours vécus, donnés à voir, à entendre.
Stéphane, ça t'inspire ou pas ?
Ça m'intéresse surtout parce que je découvre.
D'accord, je connaissais pas du tout. Rassure-toi, pas du tout non plus. Ce qu'on va écouter, si Monique veut bien, il est toujours pareil, hein, si c'est Monique, un peu de musique, et puis on va parler du surréalisme roumain.
Avec plaisir. Hein? De Roumanie.
Voilà.
Something in a way she moves. I baci che ho perduto, si piene di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno che splendidi e tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali rose. Aprirà tutte le cose.
vu, Monique, vous étiez un peu troublée tout à l'heure. Il y a eu une fausse manœuvre. Ce n'est pas dans votre réputation, pourtant. On est au 01 43 71 89 40. Alors, avant de donner la parole à Denis sur le surréalisme roumain des années noires...
40,
hein. Deuxième poème du Gladiator, toujours pareil. C'est très drôle, mais on est dans le désespoir total. Tu n'es plus ma vinaigrette, j'ai le cœur comme un poireau. Il y en a trop dans mon assiette, ça moisit dans mon frigo. Ta mère fait de la mobilette, elle dérape sur mes glaviots, elle s'éclate la foufounette, tant pis pour mon asticot. J'ai dégueulé tes chaussettes, me lardé sur tes photos, je me torche avec tes lettres, je vais flinguer ton gigolo. J'ai du sang plein les noisettes, je chiale sur le lavabo, il y a des rats sur la moquette, du cyanure à l'apéro. Au petit bal des gisquettes, mouillées jusqu'au blanc des os, j'en ai gros dans la braguette, la vie ne fait pas de cadeau. J'ai tranché toutes les minettes, ma purée dans leurs naseaux, c'est toujours toi qui es dans ma tête, qui torgnole ma libido, tout ça pour des clopinettes et pisser dans le saxo. Les brocolis font la fête, j'ai raté le dernier métro. Où es-tu, foutue crevette? Je peux plus jouer au domino, crucifié comme une omelette, je me roulais sous tes sabots. Enfonce-moi dans tes croquettes, barbouille-moi dans tes mégots, boostify à ta fourchette, arrache-moi la peau des os. Viens chatouiller mes baskets, me scalper le petit oiseau, déchouquer mes galipettes, numéroter mes zéros. Fais capoter ma poussette, les biberons dans le caniveau, arrache ma dernière sucette, viens danser sur mon tombeau.
Java Rave, c'est le titre.
Java Rave.
C'est terrible,
ouais,
non
ouais.
C'est terrible, c'est noir, ça c'est noir, on parlait d'André Frédéric tout à l'heure, c'est l'esprit noir, hein. Bon, monsieur, allez. Oui, toujours pareil. Et pourquoi c'est. Est-ce que tu parles roumain?
Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout.
D'accord. Donc tu passes que par une traduction à chaque fois.
Donc là, non, ce sont des textes. Voilà, ce sont des textes qui sont directement écrits en français. Peut-être traduits en roumain, mais en tout cas, le texte que nous publions, l'inédit que nous publions dans ce numéro, c'est un inédit qui fait partie d'un ensemble de tapuscrits. Que le groupe surréaliste de Roumanie.
Ils parlent tous français.
Ils parlent tous français.
D'accord.
À l'époque, en Roumanie, le français est la langue de la culture. Paris, c'est la ville de la culture. On dit toujours que Bucarest est le petit Paris, donc il y a toujours cette proximité. Et par ailleurs, on a quand même affaire à des gens qui créent ce groupe surréaliste et qui s'adressent. Très longuement à Breton en permanence.
Il le crée en plein fascisme.
Donc, chacun a un parcours un peu différent. Pour revenir sur cette histoire, d'abord, on a déjà publié dans Paul Il Toto des textes inédits de Paul Paun, qui est un des membres de ce groupe surréaliste de Roumanie. On avait publié un premier texte, un poème qui s'appelait La mer pâle. Et on a publié dans le dernier numéro un autre inédit qui s'appelait Les pouvoirs à la chimère, qui avait d'ailleurs été un tract, qui a été un questionnaire, une nouvelle question qu'avait posé Gerasim Luka aux membres du groupe surréaliste de France après la guerre et pour lequel il avait reçu très peu de réponses. Et là, nous avons choisi de publier un inédit de Trost.
Ah, tu peux dire le prénom parce que ça pose des problèmes.
En tout cas, lui a choisi de s'appeler Trost parce qu'il s'appelait Adolphe.
Ouais.
Je ne connais pas les raisons, on ne connaît pas grand-chose sur Trost en réalité.
Même pas sa mort.
Et on ne connaît pas vraiment sa mort. Il est parti sur la fin de sa vie. Il y a eu une séparation de ce groupe. Trost a apparemment perdu un peu le fil. Il est parti aux États-Unis. On n'est pas certain des conditions de sa mort et de son état, je dirais...
Quand tu fais une préface comme ça, Denis, on ne trouve pas de traces ni de Voronka. Il n'y a jamais de Voronka ni de Fondane.
Alors
ce sont deux Roumains, hein, pourtant, et la même période.
Roumains. Alors, si on parle de l'avant-garde, parce que bon, on parle de surréalisme, mais il y a une avant-garde roumaine avec énormément de tendances. Donc, Voronka a fait partie de ces mouvements d'avant-garde. Il en a même été un des précurseurs, parce qu'il était très proche de Dada. Une des premières revues dadaïste s'appelle 75 AP, qui est une revue des années 20 et qui est proprement dadaïste. Et il invente d'ailleurs un langage. Quant à Fondane, c'est un philosophe, c'est pas uniquement un homme de l'avant-garde et un poète.
Il n'a aucun rapport avec ces gens-là.
Je pense que ces gens se sont fréquentés. Fondane a quitté est un peu plus vieux. Il a quitté la Roumanie bien avant.
Est-ce qu'ils sont tous juifs?
On peut dire. Alors le groupe de surréalistes de Roumanie, qui est donc composé, je vais dire les noms, de Paul Paun, Gerasim Luca, Prost, et puis à un moment donné de Virgil Teodorescu et Gelu Naum. En tout cas, Paun, Luca et Trost sont juifs.
Ils vont tous avoir des destins différents. Est-ce que le nom de Peraïm te dit quelque chose?
Bien sûr.
Jules Peraïm.
Bien sûr. Oui. Peraïm, c'est aussi l'avant-garde de Roumanie, qui lui est parti pendant la guerre. Il est parti pendant la guerre et je crois qu'il est revenu avec les armées, avec l'armée russe. Et donc il y a une séparation qui se fait à ce moment-là entre il y a tout de même une séparation, il y a aussi ce fond politique qui existe en Roumanie, il y a évidemment le fascisme et après il y a les staliniens.
Voilà. On va retrouver
des séparations qui sont à la fois géographiques, qui sont aussi idéologiques. Histoires personnelles.
On trouve des toiles de Peraïm qui sont des toiles de réalisme socialisme. Hein.
Absolument.
Je ne sais pas si tu les connais, il y a un tracteur. Il marquait le pouvoir au peuple, je ne sais pas quoi.
Non. Et Peraïm, je dirais, dans les années 30, on a Bronner aussi, qui est un très grand peintre.
Bronner, j'ai oublié.
Peraïm fait des tableaux extrêmement dans l'esprit de l'avant-garde, hein, en tout cas au début des années 30.
Et Gelu Naum aussi.
Et Gelu Naum, qui a été un grand poète aussi, qui a fait partie de ce groupe un temps. Il y a des ruptures avec. Mais alors, Naum et Teodorescu ne sont pas juifs.
Alors, là, c'est Trost. On va l'appeler Dolphy Trost.
Trost, c'est Dolphy Trost. Et Dolphy, c'est évidemment le diminutif.
Alors, qu'est-ce qui ferait sa spécificité par rapport à Luca, dont moi, je connais un peu le travail. Trost, je ne connais pas du tout.
Hein. Alors, nous l'avons mis sous le signe de visible et invisible, parce que c'est un titre d'un de ses livres. Parce que Trost a une œuvre littéraire importante en français. Et Dolphy Trost, c'est un personnage absolument singulier. Très très différent et ses œuvres sont très différentes de ce qu'ont pu écrire Paul Paun et Gerasim Luca. Sa destinée est évidemment différente et par ailleurs il fait également une œuvre graphique très importante dont on met des exemples, des photos en même temps que nous publions cet inédit, et il a beaucoup d'imagination dans le nom de ses œuvres. C'est-à-dire que j'en mets, je crois, une liste. Il imagine, il ne parle pas de tableau, il ne parle pas de dessin, il parle de Mansi, d'Oniromancy. Il y a toute une partie dans la préface autour des noms qu'il donne aux œuvres graphiques.
Oui. Tu voulais nous dire quelque chose, puisque tu n'as même pas ta revue à toi.
Exactement, elle n'est pas encore. Donc là, ce texte s'appelle La ligne florifère. On en présente un très grand extrait. Donc je le dis encore, cet tapuscrit qui sommeillait chez André Breton, puisqu'ils ont été envoyés dans les années 50. Il y a des tapuscrits de Trost, de Luca, de Paun. Et donc celui-là s'appelle La ligne florifère. Je vais juste en lire les deux premiers paragraphes pour qu'on ait une idée de la beauté des textes de Trost. Donc La ligne florifère. La beauté des yeux ronge les pierres. Le vent bleu cogne les souvenirs. La clé mystérieuse ouvre la ligne de passage. Tes lèvres hurlent au secours, il faut que tu te taises jusqu'au matin. Tu as l'œil fatigué par des rêves lascifs. Lorsque le grand visage pâle de l'aimé inconnu se met à vous regarder, collé contre la vitre rouge, vous fermez les yeux. Alors commence la pluie des météores. Et là, on a un journal de rêve avec une nuit de janvier. Donc c'est juste un teasing. Merci.
Merci. On voyage beaucoup, hein, Java. La Roumanie des années 40, c'est peut-être mieux de se retrouver à Java actuellement que dans la Roumanie des années 40. Hein. Ça a dû être terrible, ces gens.
Oui, ils ont passé la guerre. Mais pendant cette époque, donc ils sont probablement dans des camps de travail, enfin ils sont dans des situations très différentes les uns des autres. Eux, en tout cas, créent ce groupe surréaliste de Roumanie et produisent des textes qui sont absolument remarquables, mais dans une bulle. Mmh. Et donc, c'est après la guerre qu'on a la possibilité de lire ces textes et ces publications. Ça dure très peu de temps. Voilà. Et ensuite, il se retrouve.
J'ai été très lié à Michel Fardoulis-Lagrange, qui est au commencement de ce numéro 6 de In Toto, qui s'est retrouvé en tôle en 43-44 pour propagande communiste arrêtée par la Gestapo, alors qu'il avait quitté le parti en 36, et il faut quand même y arriver à le faire. Et toute sa vie, il va porter ça, l'inquiétude. Et j'ai rencontré Gerasim Luca, pareil. À Paris, etc. Il y avait toujours ce phénomène d'être inquiété, poursuivi, etc. Monique, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Ah, c'est peut-être bientôt les vacances. Je sens, Monique.
Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows, honeysuckle rose. When you pass in by, flowers droop and sigh, and I know the reason why. Goodness knows, you're my honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to dunk my cup. You're my sugar, it's sweet when you stir it up. When you're taking dips from destined lips, seems that honey fairly drips. Goodness knows, honeysuckle rose. Every honeybee full was jealousy when they see you out with me. Goodness knows you're my honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop inside, and I know the reason why. Honeysuckle rose, don't buy sugar. You just have to touch my cup. You're my sugar. It's sweet when you stir it up. When I'm taking dips from your testy lips, seems a honey furly drips. Goodness knows you're my honeysuckle rose. Bring up to bleed out. Bring up to bleed out. Bring up to bleed out. Bring up.
Voilà, là, là, au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Il faut dire qu'au niveau de l'iconographie, c'est un beau numéro. Hein. Il y a un portrait d'André Breton par Hans Bellmer qui nous a été confié par le kiné de Hans Bellmer, qui est venu plusieurs fois ici, hein. Joseph aussi. On le salue ici, c'est un très beau portrait. Bon, avant de passer par la ligne gagnante, on va le faire. Là. Je rappelle, Monsieur Kader, prenez vos responsabilités, s'il vous plaît, que vous avez publié, je trouve les références, j'ai trouvé. Vous avez publié, alors, Abdul Kader Al-Janabi, c'est bien vous? Bon, ça va. Journal inactuel de l'oubli, aux éditions asymétriques.
Oui.
Alors, vous racontez un peu...
Symétrie de la symétrie. Édition de la symétrie.
Asymétrie.
Édition de la symétrie. Oui,
c'est la deuxième édition de la Horizon Vertical.
Oui, ça va.
Le premier livre, c'était Horizon Vertical. Je l'ai écrit dans les années 80. On a traduit en français. C'est mon autobiographie.
D'accord.
Disons.
Voilà. Donc, tu pars de Bagdad?
De Bagdad, à Londres. À Paris, à Vienne.
Tu apprends, tu parles pas français à Bagdad?
Non, anglais, on parle.
Ah, tu parles anglais déjà. Ouais. Et tu vas apprendre le français
après,
en arrivant à Paris.
Toujours.
Toujours. Voilà. Et c'est là que tu vas rencontrer, en fin de compte, tout le monde surréaliste qui existait à l'époque, et les situations. Et les situations,
oui, les années 70, aussi. Oui. 60, dans les années 70, je rencontre d'abord les situationnistes. Et je fais la revue des îles libertaires. J'ai publié plusieurs numéros. Après ça, j'ai commencé de connaître le groupe surréaliste parisien. Il y avait plusieurs groupes. Il y avait Euzik, Bonnour, Schuster, voilà ça. Mais moi, le premier surréaliste, pas surréaliste, en fait surréaliste, Guy Flandre. Je ne sais pas si tu connais.
Oui.
Le voisin d'en bas.
C'est la première personne que j'ai rencontrée. Après, c'est Alain Joubert, de Rose.
Pour raconter, après on va arriver à Aline Gagnère. Tout à l'heure, je parlais de l'iconoclastie de Jimmy Gladiator. J'ai un très très loin souvenir. Nous étions assis par terre dans près de la gare d'Auteuil. Il y avait des filles, il y avait tout ça. Et puis il était en train d'écrire une lettre, mais vraiment, il était plongé dans sa lettre, comme ça. Et puis, à un moment donné, il lui prend de lire la lettre. C'était une lettre d'insulte à un surréaliste patenté, à Claude Courtaud.
Ah oui.
Claude Courtaud, qui était professeur à Janson de Sailly.
Oui.
Et la fille lui dit, mais tu vas pas poster ça quand même. Il ferme l'enveloppe, il va la mettre directement dans la boîte aux lettres à côté. Ça, et il a fait ça avec esprit de provocation.
Oui.
Hein, par esprit de provocation. Hein. Et c'était bien fait. Et moi, tu vois, c'est-à-dire, alors, par rapport au ce qu'on appellera le style, la patte surréaliste, si ouais. Les grands avaient la patte surréaliste de l'insulte et tout, tu trouves plus ça après.
Ouais.
Ça s'est perdu. Voilà, c'est trop carré, on se tient très bien, il n'y a plus ça, mais c'est très drôle. C'est très drôle. Hein,
faut retrouver cette lettre.
Oui. Bien sûr.
Elle va sortir un chapeau.
Oui, un jour, oui. Cravant qui traitait je ne sais plus qui de cresson de pissotière. Voilà, c'est pas triste du tout. Voilà. Bon, dans ce numéro, oui. Numéro 6, oui. Je vous le rappelle, madame Manaouerta, je ne sais pas si vous suivez bien. Ça s'ouvre par des photos de rue.
Oui.
Hein. Ça, c'est emprunté à ce qu'on appelle la psychogéographie, emprunté aux situationnistes. On détournait les rues, on mettait des... etc. Et là, bon, on a pris des noms de rues et on a mis des phrases. Des phrases comme si c'était des graffitis.
Mais c'était des graffitis.
C'est des graffitis.
Ce sont des photos photographiées dans ces rues-là.
Qui c'est qui a fait ça?
Écoute,
faut pas te dire.
C'est un graphiste.
Un graphiste. C'est très bien foutu. Il y a Square Jaune, Georges Méliès. On n'apprend pas aux vieux singes à faire de l'image. Passage de la main d'or, rue Achille.
Ça parle France, non?
Cours, bel et faible, l'amour ne suffit pas. C'est joli ça, non? Court, bel et faible, l'amour ne suffit pas. Et donc, ce numéro, il y a un très gros dossier, Aline Gagnère. Aline Gagnère, c'est une dame qui a déjà gagné en 1911 et 1912, quelque chose comme ça, qui a commencé par un surréalisme, disons, classique, et qui a toujours eu envie de clouer, de déchirer, de tout ce qu'on fait avec des mains, comme ça, et qui est sortie de ce monde-là. Et elle dit une phrase qui est claire, elle dit « Moi, j'ai fait partie d'un groupe surréaliste révolutionnaire, nous trouvions que Breton s'était déjà encrouté. » On est en 45. Et il y a une provocation dedans, elle est femme, etc. Alors qu'elle avait dans sa bibliothèque André Breton, etc. Ça. Mais il y a une provocation, mais elle ne fait qu'anticiper ce que Debord dira plus tard. Debord sera sans pitié en 50 pour Breton. Hein. Même si Debord a voulu se prendre pour Breton. Mais c'est...
Et avant, il y a eu les réverbères et la main à plume.
C'est ça, réverbères et main à plume. C'est voilà.
Pendant la guerre.
Pendant la guerre. Des gens très courageux.
La main à plume.
La main à plume, très courageux. Je cherche leur nom. Noël Arnaud. Et son copain, je cherche leur nom. Et le plus doué poétiquement, c'était Marc Patin. Marc Patin a fait la chose qu'il ne fallait pas faire. Il est parti en STO. C'était une tête brûlée, un jeune homme. Il est parti au STO et il est mort. Il est mort très jeune. Il est mort en Allemagne, très très jeune. Et ses copains... ses anciens copains vont conserver une dent contre lui. C'est-à-dire jamais, jamais ils vont lui pardonner d'être parti, de les avoir trahis comme ça.
Et il y a eu un essai qui a été fait par Dauphin il y a quelques années. C'est un essai sur un poète qui est mort comme ça. Et Noël Arnaud a fait une lettre aussi sec, pof, d'insultes. Ça ne passait pas. Et toute l'histoire du surréalisme, il y a aussi le phénomène de la guerre qui est au milieu. Je conseille de lire aux gens. Je ne cherche même pas à savoir qui a raison, qui a tort. Chacun a fait ce qu'il a pu. Hein. Si on lit la correspondance René Char, Camus. Oui. Camus, deux résistants. Bon, Camus, il n'a jamais rien eu à voir avec Breton. Mais Char, après, en 50, ils ont, vulgairement, des boules par rapport à ceux qui sont partis aux États-Unis. Bien sûr. Et ça, on peut pas le juger. On peut pas le juger. Mais celui qui a vu son copain torturé ou pris, c'est pas facile, quoi. Voilà. Donc, il y a cette aventure d'Aline Gagné. Il y a un très, très beau dossier avec toutes ces périodes. Et Aline Gagné... Oui, je tourne. Voilà. Avec toutes ces périodes, Aline Gagné va travailler sur des matériaux très lourds. Des grands plâtres, je sais pas, tu les connais, des grands plâtres, etc. Mais ça, on le fait...
Beaucoup grâce à toi.
Hein ?
Beaucoup grâce à toi.
On le fait quand on est encore avec des bras, etc. Et c'est très beau parce que elle va devenir malade, l'âge arrivant, elle ne peut plus. Donc elle va trouver quelque chose. Elle va trouver à travailler sur des papiers de soie. Elle va découper ce qu'on appelle les transparents. C'est les transparents, c'est des corps comme ça qui sont sur la toile. Et on sent qu'elle bascule dans l'autre monde. Elle bascule dans l'autre monde. Et elle, qui dit que Breton s'est encroûté dans les années, etc., elle rejoint entièrement la pensée de Breton sur ce que Breton a appelé les grands transparents. C'est-à-dire que dès 1942, aux États-Unis, Breton cherche un mythe, il invente les grands transparents. Il n'est pas helléniste, il ne peut pas savoir que, quelques siècles avant Jésus-Christ, Diogène Laërce, dans une lettre à Épicure, développe la même théorie, c'est-à-dire qu'entre toi et moi, Stéphane, il existe des corps qui se promènent et qui ont une parfaite organisation. C'est des grands transparents. Alors Matta va revendiquer la paternité, Breton va écrire ça, et elle va...
Duchamp aussi, avec la mariée maisonnier.
C'est la transparence, on est en plein dedans. Et elle, qui a réfuté le surréalisme, va rejoindre ce chemin-là. Et la note qui m'intéresse, et après on va écouter un peu de musique pour faire la morale de tout ça, c'est que pour moi le surréalisme est matérialiste et athée. J'ai pas envie de lui donner une connotation mystique. Ça c'est un Idalia Saint-Cyr la Popie d'ailleurs, c'est une parenthèse inutile, mais c'est pas grave. Et là, elle recouvre entièrement deux vers de Breton. Breton dit quelque part, j'entends se déchirer le linge humain comme une grande feuille sous l'ongle de l'absence et de la présence qui sont de connivence. C'est magnifique. Et vous savez très bien que tout ce qu'on est là, si on a aimé des gens qui sont morts et qui ont disparu, on entend leur voix, on les voit passer. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un rendez-vous avec des amis. Je suis pas du tout dans une mystique. Je suis vraiment dans la mémoire, dans le jeu humain. Voilà. Ce que je vais vous dire. Donc, j'espère qu'un jour on pourra avoir une exposition à Aline Gagné à Paris, une grande.
Ça vaudrait la peine.
Oui, ça vaudrait la peine. C'est une grande. Et c'est
à la Saint-Pierre.
À la Halle Saint-Pierre. C'est quelqu'un qui est occulté.
Mais la Halle Saint-Pierre, d'après ce que j'ai compris, au début de l'établissement, Aline Gagné a fait l'ouverture. Presque.
Non, elle était aussi.
Une des premières.
Elle a été surtout, enfin aussi dans l'histoire, présente à la Compagnie de la Brouille au départ avec du buffet.
Oui.
Elle était conservatrice.
Voilà, ça c'est bien.
Un petit peu dans les sous-sols.
Voilà, elle a travaillé à l'air brut. Mmh. Et oui. Ça. Et donc, donc il faudrait voir, c'était une position à découvrir. C'est quelqu'un qui, je parlais de Jimmy, je parlais, etc. Et ce sont des gens occultés. Il y a eu une exposition femme et surréaliste avec un point d'interrogation la dernière fois au musée Montmartre. La seule qui n'a pas, c'est Aline Gagné. C'est la seule, et chaque fois c'est comme ça. Donc il faudrait peut-être rattraper la machine, mademoiselle, s'il vous plaît. Allez, merci.
Didn't know what time it was. Then I met you. Oh, what a lovely day it was. How sublime it was too.
I didn't know what year it was. You held my hand. Warm like the month of May it was. And I said it was grand, grand to be alive, to be young and mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. I didn't know what year it was. Life was no prize. I wanted love, and here it was, shining out of your eyes. I'm wise, and I know what time it is now.
Ah ah ah, Mona Huerta, s'il vous plaît, merci. Bon, Kader, comment on dit Unsi El Hadj, c'est ça?
El Hadj.
Oui. Tu l'as connu?
Oui.
Ah, tu l'as connu?
Oui.
Tu l'as connu où ça?
Je l'ai connu comme écrivain.
Oui, mais
connu avant moi.
Tu l'as rencontré physiquement?
Après, 10 ans après, dans les années 70, là-bas.
Où ça?
À Paris.
À Paris, d'accord. Oui,
voilà. C'est un Libanais.
Il était libanais. Il écrivait en français? Non.
Il écrit en français s'il veut, mais il écrit en arabe pourtant.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il a de spécial?
C'est un grand poète libanais.
Ouais.
C'est le premier vraiment qui a dénoncé la prosodie arabe classique. Et cassé le carcan de la grammaire, de la poésie classique, tout ça, voilà. Et il a produit un livre qui s'appelle L'Ain. Ce serait difficile à traduire. C'est-à-dire jamais, mais c'est pas bon de mot jamais. Et il a publié 62, qui était comme une révolution au niveau de la langue. Il a créé des images, des textes, voilà. Il était le premier qui a traduit Breton, 13 poèmes, et Arto, traduit en arabe. Il a présenté avec une présentation très critique, très savoir-vivre.
Tu l'avais déjà publié dans le Désir Libertaire ou pas?
Oui, j'ai publié déjà deux livres. Un chez Actes Sud, deux chez Actes Sud. Horizon, le volante, non, attends.
Éternité volante.
Voilà, l'éternité volante.
Et puis.
Et l'autre s'appelle La messagère aux cheveux longs.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Ce sont des gens qui s'attaquent à la religion, à l'islam.
Non.
Non?
Ça, le problème dans le pays arabe. Comme un chrétien, il devait essayer de toucher.
D'accord.
De toucher même le côté religieux de la langue. Pas se accuser comme quelqu'un qui insulte l'islam. Alors, mais pour moi, c'est plus qu'une critique à l'islam, c'est de créer des œuvres poétiques correctes qui est au niveau de la langage. Et le bien. Ça ne m'intéresse pas beaucoup de critiques de religion, de critiques un musulman ou chose comme ça. Mm-hmm. La plupart de la modernité arabe poétique, c'était faite par des chrétiens.
D'accord.
C'est parce qu'ils ont ouvert, ils n'ont pas de tabou, surtout à l'époque. Aujourd'hui, un peu.
Georges Hénin n'était pas chrétien.
Copte.
Copte.
Ouais. Ouais. D'accord. Alors, voilà.
Bon, on s'est dit beaucoup de choses hein, pendant une heure. Mais on s'est dit beaucoup de choses. Hein. Ça vaut le coup de revenir de Java, franchement. Donc, si vous vous promenez dans les librairies, notamment à la Halle Saint-Pierre, bientôt, j'espère. Déjà, rendez-vous. On aura le 7 octobre la revue Empreinte avec Claude Brabant, en préparation du salon de la revue, le 12-13 au Blanc-Manteau. In Toto, il sera. On pourra tous se rencontrer. Et là, si vous vous promenez à la Halle Saint-Pierre en librairie bientôt. Vous verrez une très belle couverture en noir et blanc aux éditions La Symétrie, Arabie sur Seine. Il y a une petite fille qui est très bien.
C'est Alice
qui est très
castille, insolente et rebelle, comme vous pouvez le voir.
C'est ça, elle tire la langue.
Oui.
Elle tire la langue.
À tous.
À tout le monde.
À tout le monde, c'est Toto. Voilà. En haut, il y a ce fameux portrait dans la belle-mère d'André Breton qui est superbe. Et puis une phrase, je ne suis pas pour les adeptes, qui est un poème de André Breton.
7 ans, 6 ans.
Elle a 7 ans.
Non, moins que ça.
Elle a 7 ans, cet enfant a 7 ans.
Non, en maternelle, elle est.
Elle est bien partie, hein. Elle est bien partie. On est bien sur Radio Libertaire, c'était un plaisir, je vous remercie tous. Hein, écoutez, rituel, vous ne pouvez pas, il faut remercier Monique en cabine.
Ah, hein,
parce que je tiens à vous dire, il y en a certains qui ne sont pas sortis indemnes et intacts du studio. Hein. Alors, on envoie des baisers, on remercie. Merci Monique, c'était un plaisir.
Oui,
merci Monique.
Merci Monique pour l'invitation.
Voilà.
Merci Monique.
On n'a pas besoin.
Lentement dans le soir, le train s'en va. Et sur le quai, son mouchoir s'enfuit. Dans la glace comme un songe, le mur gris de sa maison, sous le toit qui s'allonge, s'estompe à l'horizon, un nuage s'étire sur son toit bleu. En passant, un nuage s'étire
sur son toit bleu. En passant, il semble dire un triste adieu. Et tout ce que j'aimais, lorsque le train vit,
combien de morts faut-il ajouter au décompte? Combien de cadavres encore faut-il ajouter à la honte?
Gaza bombardée, massacrée, enfants ciblés, mères en pleurs.
Deux mots brûlent dans mes pensées, la lâcheté et le déshonneur.
C'est un peuple mis en prison, qu'on mutile, qu'on asphyxie. Écoles, hôpitaux, maisons, partout ruines, gravats, débris.
Écraser les chopes et la rue, le marché, la chambre au bonheur. Et deux mots marquent ceux qui tuent, la lâcheté et le déshonneur. Soldats planqués dans ton blindé puissant comme 20 forteresses,
dont un seul obus va briser sans risque pour toi 20 jeunesses.
Et toi, pilote routinier, avec tes missiles de l'horreur, vous personnifiez à jamais la lâcheté et le déshonneur. Et toi qui ordonne, qui pense, et n'a avec ton état-major
pas d'autre choix dans ta démence que de frapper encore plus fort,
que d'aller plus loin dans le crime
et d'infliger plus de douleur.
Tu incarnes au degré ultime la lâcheté et le déshonneur. Non, la lutte n'est pas égale entre 1000 avions, 1000 chars, 100 000 bombes infernales et un peuple enfermé à gare.
Taisez-vous, gens de propagande,
larbins sans conscience ni cœur. Vos mots sont fientes qui défendent la lâcheté et le déshonneur.
Voleurs de vallées, de collines, votre rêve semble être de saigner tous les enfants de Palestine,
de les tuer jusqu'au dernier. Jusqu'où donc ira votre haine? Vous vous prenez pour des seigneurs, mais derrière vous, comme une traîne, la lâcheté et le déshonneur. Et lui et elle, et vous d'ici, femme ordinaire, simple passant,
où sont votre rage et vos cris? Le silence est assourdissant.
Et toi, le premier d'entre nous, veulent qui reste spectateur.
Voici que retombe sur nous
ta lâcheté et ton déshonneur.
Combien de temps faudra-t-il pour que soient jugés les assassins?
combien d'années, combien de jours pour que la paix ouvre ses mains? Combien de jours, combien d'années pour que vienne la fin des pleurs? Combien de temps pour oublier la lâcheté et le déshonneur?
Depuis que je fais de l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quelle gymnastique, c'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui est pas trac, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qu'à la flemme, l'imprimante bien trop lente, les cartouches qui se touchent et les buses qui abusent, les polices qui pâlissent, le DVD fatigué. Les options en options, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros. Ah mon Dieu, c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu, c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps? J'ai invité la belle Suzanne l'autre jour au cybercafé. Elle m'a dit:
je préfère ta bécane, allons chez toi, fais-moi surfer.
Hélas, ma machine est en panne.
Galère.
Que je lui réponds, je suis désolé. J'ai le Mac qui patraque, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc,
ouais.
Le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué,
pas
le
dur.
Modem qu'à la flemme, la mémoire sans espoir, les options en options, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros.
Ouais.
Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont cuits, raccourcis, rikiki, j'ai l'index qui est perplexe, les pixels en rondelle, USB constipé, j'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pas gaillarde, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeur, moniteur est un. En plus de ça, je vous cache pas, j'ai aussi quels soucis. Les OP pas très frais, les virus plein de tonus, les majuscules qui bousculent, les minuscules qui copulent, le Windows qui est morose, les programmes c'est un drame, et la puce en lotus, le cordon en tire-bouchon, les MS-DOS qui a des bosses, les menus malfitus, le logiciel mon mari, et l'audio qui est idiot, la carte son qui est marron, la couleur quelle horreur, les fenêtres qui se pénètrent, les symboles qui s'affolent, le système bien trop blême, le réseau qui prend l'eau, et du coup voyez-vous, il vaut mieux que vous partiez, car je sens c'est ma branche, je peux plus rien maîtriser. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu que c'est palpitant mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. Ah mon Dieu que c'est affolant toute cette informatique. Ah mon Dieu que c'est affolant mais qu'est-ce qu'on ferait sans.
Il paraît qu'un enfant va naître, un être que l'on dit nouveau. Vous l'avez réussi, bravo, j'ai grand besoin de le connaître. C'est la dernière découverte, un homme heureux parmi les siens. Je veux lui offrir ce refrain, comme un cadeau, comme une alerte. Petit robot qui va venir, petit robot qui va venir, il est joli ton avenir. On mettra deux fils dans ta tête pour y faire entrer le savoir, celui que tu devras avoir pour être comme on dit un être. Les fils se grilleront de même, juste avant de laisser passer ce qui pourrait te faire penser ou te poserait des problèmes. Petit robot qui va venir, petit robot qui va venir, il est joli ton avenir. Il paraît qu'aux vapeurs d'essence, on habituera tes poumons. Le parfum des mers et des monts, tu n'en auras pas connaissance. On habituera tes oreilles à ce que les bêtes fuyaient. En toi les bruits seront triés et tes idées seront pareilles. Petit robot
qui va venir, petit robot qui va venir, il est joli ton avenir. On te dira dès ta naissance, méfie-toi bien des étrangers, mais tu ne cours aucun danger si tu gardes l'obéissance. Tu n'auras pas le choix des armes dans ton duel avec la vie, mais quand tomberont tes amis, tu n'auras ni peine ni larmes. Petit robot qui va mourir, petit robot qui va mourir, il est joli ton avenir. Tu auras une vie parfaite, toujours heureux, toujours content, mais si un jour tu as le temps d'écouter mon chant trouble-fête, les deux fils qui sont dans ta tête, tu les feras se rencontrer, ou bien tu feras tout sauter, ou bien tu deviendras poète.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour, donc après la voix charmante Monique, Serge au micro. Alors en fait, on n'est pas dans le studio, on est en centre de la Mayenne, on va dire, en gros, avec la Mayenne qui est à nos côtés. Et dans GAEC Radienko, qui est un GAEC collectif qui est en place depuis longtemps, puisqu'on a déjà fait une émission avec eux il y a 13 ans, au moment où il démarrait ce projet, et l'idée c'était de le revoir 13 ans après, comment ce projet a évolué, où est-ce qu'il en est maintenant. Et donc on a avec nous, on a Marc, et ce qui est formidable, on a en même temps aussi Maxime qui intègre récemment ce collectif. Et c'est justement un aspect qu'on va aborder un peu dans l'émission, comment cette structure collective qui s'est mise en place avec des gens qui se connaissaient en amont, enfin nous en parlera rapidement de toute façon Marc, comment on peut intégrer des nouvelles personnes et comment on peut pérenniser et y compris s'il peut y a des évolutions sur le sur les membres du collectif. Voilà. Donc Marc, je te donne un petit peu la parole pour rappeler un petit peu comment vous avez démarré le projet que vous vouliez faire, et puis après on échangera sur les évolutions que par rapport à ce projet.
Ok. C'est parti. Alors il faut que je me replonge dans le passé. La ferme, elle a commencé en 2011, mais l'histoire, elle existait avant. Enfin, on a vraiment commencé à être ensemble en 2008. C'est Robert, le maraîcher de la ferme, qui a l'initiative d'une petite annonce dans les journaux locaux. Une annonce pour inviter les gens à réfléchir à la création d'un lieu collectif qui serait un lieu et d'autonomie alimentaire et pourquoi pas énergétique, culturel, un lieu d'habitat, un lieu de partage. Et suite à cette annonce, il y a eu une réunion de proposés. On a été une trentaine et puis rapidement une douzaine. Et puis cette douzaine-là a duré un an et demi ensemble, où on a appris à se connaître et puis on a appris à exprimer ce pourquoi on était là, ce qu'on imaginait dans un lieu pareil. Ça nous a même aidé à nous comprendre nous-mêmes, quoi.
Est-ce que parmi ce collectif, hein, ce qui s'est structuré au départ, il y avait des qui étaient d'origine paysanne ou pas ?
Non, plutôt pas.
D'accord.
Non, même pas. On était des gens, une partie de gens de la Mayenne quand même, donc d'un milieu rural, mais pas des enfants de paysans. Plutôt des gens qui avaient fait un peu des études, pas dans l'agriculture.
Donc problème quand même, pas de terre disponible, pas prendre la suite de parents, et puis aussi un apprentissage, parce que métier, tu le sais, mais un paysan c'est vraiment un métier au sens fort du terme.
Oh.
Non,
mais c'est vrai que ça fait partie des premières...